Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 2 juillet 2021. Jean-Roger Billon à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations. Au Niger, le président Mohamed Bazoum a visité la région de Diffa, foyer d'accueil des réfugiés, victimes des attaques djihadistes. Afrique du Sud, soutien populaire à Jacob Zuma, condamné à la prison cette semaine. Hommage national ce vendredi à Lusaka au premier président zambien, Kenneth Kaunda, décédé le 17 juin à 97 ans. L'armée américaine a amorcé son retrait d'Afghanistan. Les États-Unis ont officiellement restitué à l'armée afghane la base de Bagram, la plus grande du pays. Ne manquez pas dans cette session d'information la minute éco et les sports, mais tout d'abord le journal. Au Niger, pour son premier déplacement hors de Niamey depuis son arrivée au pouvoir, le président Mohamed Bazoum s'est rendu dans la région de Diffa, fortement touchée par les attaques de Boko Haram. Cette région, dans le sud-est du pays, à la lisière du lac Tchad, accueille des centaines de milliers de réfugiés qui ont fui les violences au Nigeria voisin. Le point avec Abdul Razak Idrissa, notre correspondant à Niamey.
C'est sa première sortie à l'intérieur du pays depuis son investiture il y a exactement 3 mois. Il est allé au contact des populations de cette région fortement affectée par l'insécurité due aux attaques de la secte Boko Haram, mais qui, depuis quelques semaines, retrouve le calme. Les attaques sont en effet moins fréquentes et les quelques-unes menées par les éléments terroristes sont vigoureusement repoussées par les forces de défense et de sécurité. Forces de défense et de sécurité que le président Mohamed Bazoum a également rencontré et remercié.
Les populations de Diffa nous ont témoigné leur attachement et leur fierté de ce que vous faites. Je voudrais être, elle aussi, leur porte-parole de façon spécifique. J'ai senti beaucoup de joie sur les visages de la population de Diffa. Cette joie, c'est vous qui l'avez étonnée. C'est donc à vous qu'il faut dire merci.
Parti depuis jeudi, Mohamed Bazoum passera 72 heures dans la région pour, dit-il, entendre de plus près les populations sur leurs préoccupations. Ce vendredi déjà, il s'est notamment rendu dans le village de Baroua, dont les populations ayant fui depuis 5 années leur localité ont été réinstallées il y a une dizaine de jours. Abdelrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
La Sierra Leone, touchée par une inquiétante 3e vague de contamination au Covid-19, sera à nouveau soumise à un couvre-feu dès lundi prochain et pour 1 mois, a annoncé le président Julius Madabio. Le couvre-feu sera en vigueur sur l'ensemble du territoire de 23h à 5h du matin. Les offices religieux dans les églises, mosquées et temples sont également suspendus pour 1 mois à partir de ce vendredi, a précisé le chef de l'État sierra-léonais. La Cour d'appel du Kenya va trancher le 20 août prochain sur une décision de justice bloquant une réforme constitutionnelle promue par le président Uhuru Kenyatta, a indiqué son président aujourd'hui à l'issue de 4 jours d'audience. La Haute Cour de Nairobi avait jugé illégal au mois de mai ce projet de réforme qui vise à modifier la constitution via référendum à seulement 1 an de l'élection présidentielle de 2022. Le gouvernement kényan propose de modifier la constitution de 2010 qui avait instauré un régime présidentiel en créant notamment un poste de premier ministre, 2 postes de premier ministre adjoint et 1 poste de chef de l'opposition. Cette modification permettrait d'atténuer le système actuel du vainqueur rafle tout auquel M. Kenyatta impute les conflits post-électoraux dans son pays. Le gouvernement éthiopien a rejeté aujourd'hui les accusations affirmant qu'il prévoyait de bloquer l'aide humanitaire vers le Tigré, région en guerre depuis 8 mois et passée cette semaine sous contrôle des forces loyales aux anciennes autorités locales. Des ONG et le Programme alimentaire mondial ont fait état de la destruction de 2 ponts cruciaux pour l'acheminement d'aide au Tigré, mettant en garde contre les risques posés à la population qui vit dans certaines zones dans des conditions de famine. Un calme précaire sous étroite surveillance de l'armée plane ce vendredi sur le royaume d'Eswatini après une série de violentes manifestations contre le régime. Les tirs qui ont résonné nuit et jour se sont tus dans la capitale Mbabane, théâtre ces derniers jours de heurts entre manifestants et policiers qui ont fait plusieurs morts et des dizaines de blessés, selon les militants pro-démocratie. Ces derniers jours, des centaines de jeunes en colère ont pillé et brûlé des magasins. La protestation qui couvait depuis des semaines est montée en puissance en début de semaine. Mobilisation pour l'ancien président sud-africain Jacob Zuma, condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice. Des dizaines de ses partisans se sont rassemblés ce vendredi devant sa résidence du KwaZulu-Natal pour le soutenir. Abdourahman Dia.
Jacob Zuma a jusqu'à dimanche pour se constituer prisonnier ou risquer d'être taillé chez lui. Ses fidèles ont tenu à lui montrer qu'il n'était pas seul. « Nous aimons Kamala », dit en Zulu Cecilia Ngonse, 43 ans, désignant l'ex-président sud-africain par son nom de clan. Avec une vingtaine d'autres femmes, elle a parcouru plus de 300 kilomètres la nuit dernière pour rejoindre Kandla. « Nous soutenons Zuma et nous voulons savoir ce qui va se passer pour lui », dit Cecilia. Des militants de l'ANC continuaient d'affluer vers sa résidence ce vendredi. Le camp Zuma a rejeté le jugement de la plus haute juridiction du pays, l'estimant inconstitutionnel et accusant les juges d'avoir laissé parler leurs sentiments et leur colère. L'ex-président est accusé d'avoir dilapidé l'argent public pendant ses 9 années au pouvoir. Une commission d'enquête a été créée en 2018, mais l'ex-président n'a témoigné qu'une seule fois, refusant ensuite de coopérer, ce qui a abouti à sa condamnation mardi.
Jacob Zuma a demandé l'annulation de sa condamnation à une peine de prison ferme dans un recours aujourd'hui. L'ancien chef de l'État sud-africain a invoqué un état de santé instable et une décision de l'incarcéré qui menace sa vie physique. Il remet en question le jugement comme étant inapproprié pour des faits d'outrage à la justice. Hommage national ce vendredi à Lusaka, au premier président zambien Kenneth Kaunda, décédé le 17 juin à 97 ans. Plusieurs dignitaires africains, dont le président sud-africain Cyril Ramaphosa, sont allés lui rendre un dernier hommage. Nathalie Barge.
Le cercueil du premier président zambien enveloppé dans un drapeau est arrivé au stade de Lusaka, tiré par un véhicule militaire. Des soldats en treillis ont dansé sur une musique solennelle et entonné des chants funèbres devant un portrait géant de Kenneth Kaunda. Aux abords du stade, des chauffeurs de taxi ont roulé les phares allumés en signe de deuil. Surnommé le Gandhi africain, il avait défait sans violence l'ancienne Rhodésie du Nord de la tutelle britannique en 1964. Au pouvoir pendant 27 ans, il avait collectivisé des fermes et nationalisé les mines de cuivre et d'autres secteurs clés. Kenneth Kaunda a apporté un soutien de taille aux luttes de libération dans toute l'Afrique australe. Il a été l'un des plus fermes opposants au régime d'apartheid en Afrique du Sud, offrant une solide base arrière à l'ANC de Nelson Mandela, qui organisait sa lutte armée depuis Lusaka. La Zambie et des pays voisins ont déclaré plusieurs jours de deuil national et mis les drapeaux en berne.
Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exhorté aujourd'hui le Maroc et les indépendantistes sahraouis du Front Polisario à accepter le prochain candidat qu'il va leur proposer pour le poste d'envoyé spécial de l'ONU au Sahara occidental après le refus récent d'une 13e candidature. M. Guterres a indiqué début mai avoir déjà proposé 12 candidats en 2 ans. Il n'a pas précisé qui était ce 13e candidat qui a été rejeté. Les discussions sur l'avenir politique de la Libye organisées en Suisse sous l'égide des Nations Unies devraient s'achever ce vendredi avec la publication d'un communiqué, mais sans conférence de presse, a annoncé un porte-parole de l'ONU. Ces négociations visent à ouvrir la voie à l'organisation d'élections législatives et présidentielles d'ici à la fin de l'année.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les troupes américaines et de l'OTAN ont quitté la base aérienne de Bagram, la plus grande de l'Afghanistan. Cette base, située à 50 km au nord de Kaboul, a été restituée à l'armée afghane, annonce le gouvernement. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
L'aérodrome de Bagram a été officiellement remis au ministère de la Défense. Les forces américaines et de la coalition se sont complètement retirées de la base, a tweeté Fawad Aman, porte-parole du ministère afghan de la Défense. Un responsable américain de la Défense avait auparavant confirmé que toutes les forces de la coalition ont quitté Bagram. « Nous nous réjouissons et soutenons ce départ », a déclaré le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, ajoutant que leur retrait complet permettra aux Afghans de décider eux-mêmes de leur avenir. L'armée américaine et l'OTAN doivent retirer leurs derniers soldats du pays d'ici le 11 septembre, date du 20e anniversaire des attentats de 2001. La base de Bagram a été le pivot des opérations américaines tout au long de la guerre déclenchée en 2001. C'est de là qu'étaient menées les frappes aériennes contre les talibans et leurs alliés d'Al-Qaïda. Depuis que ce retrait a débuté en mai dernier, les talibans ont pris le contrôle de dizaines de districts ruraux pendant que les forces de sécurité afghanes consolident leur présence dans les grandes villes.
Le président américain Joe Biden a assuré aujourd'hui que le retrait des troupes américaines en Afghanistan ne serait pas bouclé plus vite que prévu, en réponse à une question sur la probabilité d'une conclusion dans les prochains jours. Nous sommes exactement sur la trajectoire prévue, a-t-il assuré lors d'une conférence de presse. Les États-Unis ont indiqué que leurs derniers soldats quitteraient l'Afghanistan d'ici le 11 septembre. Voilà pour le journal, vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Marius Munga.
D'après Financial Freak, la compagnie ivoirienne d'électricité versera à ses actionnaires le 14 juillet 2021, au titre de l'exercice 2020, un dividende net global de 9,359 milliards de francs CFA. Le dividende de 2020 représente 66,85% de la valeur nominale de l'action qui est de 250 francs CFA. La compagnie a ainsi fait un bénéfice après impôt de 17,183 milliards de francs CFA, en forte progression de 120%. En Ouganda, après un confinement de 42 jours pour lutter contre la propagation du coronavirus, les commerçants du marché Nakasero, le plus grand marché de Kampala, la capitale, ont été autorisés à continuer leurs activités, mais à condition d'y rester jour et nuit. Le gouvernement a distribué des moustiquaires, de l'eau potable et du savon à quelques 600 vendeurs confinés dans les allées exiguës du marché. L'économie américaine a créé plus d'emplois que prévu en juin, mais le marché de l'emploi est loin d'être remis de la pandémie, a annoncé vendredi le département du travail américain. Au total, 850 000 emplois ont été créés contre 680 000 attendus par un consensus d'analystes.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Anthony Bafoué a quitté son poste de secrétaire général chargé du football et du développement à la CAF. C'est une décision que j'ai prise il y a 3 mois pour des raisons personnelles, a écrit le Ghanéen, ajoutant, je cite, « Le voyage qui a commencé en novembre 2017 se termine tristement, laissant place au début d'un nouveau voyage. Je me considère chanceux d'avoir servi la CAF et d'avoir été à l'avant-garde de l'administration du jeu sur le continent. » Ancien international ghanéen, Anthony Bafoué avait été nommé secrétaire général adjoint de la CAF en 2017. Les quarts de finale de l'Euro débutent ce soir. La Suisse fait face à l'Espagne à Munich et la Belgique joue l'Italie à Saint-Pétersbourg. Demain, la République tchèque fera face au Danemark et l'Ukraine affronte l'Angleterre. Lui n'a pas atteint les quarts de finale de l'Euro et prend sa retraite internationale. Toni Kroos, l'élégant milieu de terrain allemand du Real Madrid, dit arrêter avec sa sélection 3 jours après l'élimination de la Mannschaft en 8e de finale. « J'ai joué 106 fois pour l'Allemagne, il n'y aura pas de nouvelle fois », écrit sur son compte officiel Instagram. Le joueur de 31 ans, Kroos, compte 25 trophées chez les professionnels, dont 4 Ligues des Champions, une avec le Bayern Munich et 3 avec le Real Madrid. Auteur de 17 buts en équipe nationale, il a été l'un des piliers de la génération dorée allemande des années 2010 qui a remporté le Mondial 2014 au Brésil. NBA, privé de sa star Giannis Antetokounmpo, Milwaukee a quand même largement dominé Atlanta lors du match numéro 6 de la finale de conférence Est, remporté 123 à 112. Auteur de plusieurs dunks rageurs tôt dans la partie, Brook Lopez a été à la proue de l'attaque des Bucks. Le pivot a fini avec 33 points. La série revient désormais à Atlanta samedi pour un match numéro 6 décisif. Avec une victoire, Milwaukee, qui mène la série 3 victoires à 2, accéderait à la troisième finale de son histoire pour tenter de décrocher un deuxième titre. Athlétisme, Shakari Richardson, sensation du sprint mondial cette saison, reconnaît avoir été contrôlée positive à la marijuana à l'occasion des sélections américaines fin juin. Elle ne disputera donc pas le 100 mètres aux JO de Tokyo qui débute le 23 juillet. Richardson, suspendu 1 mois à compter du 28 juin par l'agence américaine antidopage, a évoqué, je cite, « un état émotionnel douloureux » après avoir appris la mort de sa mère pour justifier la prise des stupéfiants. La suspension commençant le 28 juin Elle pourrait donc courir à nouveau à compter du 28 juillet. Cela lui laisse donc la possibilité de participer au relais olympique du 4 x 100 mètres, les séries du relais débutant le 5 août, bien sûr, si elle est sélectionnée par la Fédération américaine d'athlétisme.
Page de sport signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Congo-Brazzaville, les autorités redoutent de mettre dans la poubelle d'ici à fin juillet entre 98 000 et 100 000 doses de vaccins chinois si elles n'étaient pas utilisées. La population de ce pays manifeste en effet une grande réticence face à la campagne de vaccination contre le Covid-19 lancée depuis des mois. Le point avec notre correspondant à Brazzaville, Arsène Séverin.
Voici des semaines déjà que les autorités se plaignent du désintéressement de la population pour les vaccins anti-Covid. Le ministre de la Santé, Gilbert Moukoki, l'a dit devant les députés. L'engouement des premiers jours de vaccination contraste avec l'hésitation d'aujourd'hui. Denis Christelle Sassou-Nguesso, ministre de la Coopération internationale et du partenariat public-privé, explique la situation réelle.
Donc en réalité, nous pouvons considérer que la République populaire de Chine a gratifié le Congo au total de 300 000 doses. C'est que toutes ces doses, il faudrait bien que nous puissions les consommer parce qu'il y a un certain nombre de doses qui arrivent en date de péremption à la fin du mois de juillet. On a près de 98 000 à 100 000 doses non utilisées. Et si les gens ne se vaccinent pas, nous allons devoir les jeter. Et il serait dommage qu'un pays comme la Chine, qui nous a quand même gratifié de près de 300 000 doses, constate qu'un pays ami et frère comme le Congo n'a pas utilisé ces doses et a dû les jeter.
Dans les rues de Brazzaville, la population est réticente. Non pas seulement qu'elle a peur du vaccin suite aux informations reçues des réseaux sociaux, mais elle s'est dit préoccupée par la recherche de la nourriture que de croire en cette maladie.
Pourquoi il y a beaucoup de types de vaccins? Pourquoi on ne tomberait pas d'accord sur un seul modèle de vaccin? C'est-à-dire que jusqu'ici, on n'est pas certainement sûr de ce qu'on fait. Et voilà pourquoi je pense qu'on est encore à la phase expérimentale de ces vaccins. Et du coup, je voudrais, moi, en tant que Brazzaville, d'abord, voir ce que ça va donner.
C'est que les vaccins, d'ordinaire, ça met du temps pour les avoir. Et les gens qui ne sont pas complètement ignorants se posent des questions. Il y en a qui posent la question suivante, est-ce que ce sont les mêmes qui sont administrés chez nous et en Occident?
Pour l'analyste social Clevin Hassan Bouzir, la communication et l'exemplarité des autorités elles-mêmes constituent l'un des principaux obstacles.
Ceux qui sont chargés de surveiller cela, ce n'est pas la loi qu'ils appliquent, c'est une opportunité pour la police pour gagner de l'argent à longueur de journée en traquant les populations. Donc ce n'est pas peur que les populations appliquent ce qu'ils font. Mais il n'y a pas une conscience pour dire attention, la maladie existe. Donc à partir du moment où vous avez les dirigeants eux-mêmes, pendant qu'on dit non, il y a le couvre-feu, il ne faut pas rentrer dans les boîtes, ils ont leur boîte de nuit à eux où ils se retrouvent pour danser en cachette. En ce moment-là, on vient les attraper. Comment le citoyen qui apprend ça va considérer que réellement la maladie existe?
Dans certaines administrations comme la police, la hiérarchie prend des mesures exigeant au personnel de se faire vacciner. Par ailleurs, une campagne de sensibilisation dans les universités porte légèrement ses fruits. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Au Nigeria, les deux chambres du Parlement fédéral ont adopté un projet de loi attendu visant à réformer l'industrie pétrolière et gazière du pays. La réforme du secteur pétrolier au Nigeria était attendue depuis 2008. La nouvelle loi vise à mieux protéger les intérêts du pays et des communautés locales. Les détails avec Gilbert Tamba, notre correspondant à Abuja.
Le projet de loi controversé a duré plus d'une décennie au Parlement avant son adoption jeudi. Son approbation finale est un succès pour le gouvernement du président Mohamed Buhari qui a réintroduit le projet l'année dernière. Dans les rues d'Abuja, les réactions des populations.
Je pense que c'était attendu depuis longtemps, mais c'est un progrès. Pour moi toutefois, il ne s'agit pas de faire adopter la loi. Quel sera son impact sur la population ordinaire dans les rues? C'est la question que nous devons devons nous poser?
Oui, cela devrait être une question de joie. Mais ceux qui sont en charge des affaires de l'État respectent-ils ces lois qui sont votées ou signées? Vont-ils travailler en conformité avec tout ce qui est dit dans ce projet de loi? Absolument, la réponse c'est non.
Les inquiétudes sont les mêmes pour les activistes nigérians. Fethi Nwadichi, du Centre pour la transparence sur la gestion de la manne pétrolière.
Le principal défi est de savoir si les Nigérians vont se servir de ça pour tenir le gouvernement responsable de la gestion du pétrole, car il ne s'agit pas seulement de retenir ce qui est écrit dans ce projet de loi, mais de veiller à son exécution. Il faut donc demander des comptes.
Le projet de loi devrait modifier les conditions de paiement des redevances par les sociétés pétrolières multinationales et stimuler l'exploration pétrolière et gazière à travers le pays. L'économie nigériane dépend fortement des revenus pétroliers et ce projet doit en principe changer radicalement le secteur en stimulant les investissements étrangers et en réduisant le contrôle du gouvernement sur la NNPC, la compagnie pétrolière d'État qui gère le pétrole. Charles Madjomi est un spécialiste du domaine et analyste énergétique. Il estime qu'il y a du nouveau dans ce projet de loi, mais aussi un point de controverse.
Ce qui est nouveau, c'est cette considération accordée aux communautés productrices du pétrole au Nigeria et cette nouvelle mesure concernant l'exploration. Je pense que ces deux points représentent les points chauds de controverse. Je pense que si ces points ne sont pas négociés vite, ce n'est pas notre souhait, mais cela pouvait donner naissance à des agitations dans le delta du Niger où se trouvent ces communautés.
Ces communautés exigent que 10% des ressources leur reviennent. La loi adoptée offre 2,5%, ce qui cristallise encore les débats. Premier producteur du pétrole du continent africain, le Nigeria peine à développer le secteur en raison d'une corruption. Gilbert Tamba Abuja, VOA Afrique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Mali, hausse des prix de la viande et de l'huile. Depuis plus de deux semaines, le kilo de viande est acheté à plus de 3000 francs CFA, alors qu'il était à 2200 francs CFA. Le litre d'huile qui était à 600 francs se retrouve à plus de 1000 francs CFA. Une situation que déplorent les consommateurs maliens. Le gouvernement est interpellé. Aucune réaction pour l'instant. Mariam Kouyaté est la correspondante de la VOA à Bamako.
Au Mali, on assiste à une hausse incontrôlée du prix des denrées de première nécessité, notamment la viande et l'huile. Une situation que le consommateur malien vit très mal.
Moi, je ne mange plus la viande depuis que le prix a augmenté. Le kilo de la viande est acheté à plus de 3000 francs CFA. Nous, les pauvres, on n'a pas le choix. Mon argent de compote ne vaut même pas. Le gouvernement doit faire face à la situation. On ne peut plus acheter de la viande. J'achète maintenant que du poisson. Et là encore, le prix a légèrement augmenté de 50 à 100 francs. C'est cher sur le marché.
Pour en savoir davantage, allons au marché de l'Afiabougou. Depuis que le kilo de viande a atteint plus de 3000 francs CFA, les clients se font de plus en plus rares autour de l'étal du boucher Khalifa Kone.
Les prix du blé est en ce moment très élevé à cause de l'insécurité chez nous. La plupart de nos bétails sont emportés hors Mali. Le peu qui nous reste n'est pas suffisant pour la population. Nous, les bouchers, on est obligés d'augmenter le prix du kilo. Le gouvernement doit diminuer le nombre de bétails sortant.
Sachez qu'au Mali, la viande et l'huile sont des denrées beaucoup consommées. L'huile également a connu une hausse vertigineuse, ce qui a fait que certains commerçants ont arrêté la vente pour l'instant. Bourama Diallo.
L'huile du Nord, c'est Sambulo, Wafla, Kemedouru, Wafla, Kemor.
Le bidon d'huile du Nord importé coûtait 12 500 à 13 000. Aujourd'hui, on l'achète à plus de 20 000 francs CFA. L'huile locale, le bidon, on l'avait à 11 000. Le prix a augmenté jusqu'à plus de 20 000. On ne se fait plus aucun bénéfice à cause de la cherté. Moi, j'ai arrêté la vente pour l'instant.
Face à la situation, les associations consommateurs proposent des pistes de solutions au gouvernement.
Il y a la responsabilité de l'État. C'est vrai que nous sommes dans un marché libéral, mais l'État est obligé de réguler parce qu'il y a une loi qui a été votée en 2015 qui porte sur la protection des droits des consommateurs. Nous, nous travaillons à rapprocher les points de vue entre un certain nombre de ministères qui interviennent pour la régulation du marché. D'ici quelques jours, les consommateurs verront que, en réalité, des efforts ont été faits et que les prix sont en train de redescendre.
Pour l'instant, aucune réaction concrète du gouvernement, tant interpellé par la population. Les consommateurs, quant à eux, prennent pour le moment leur mal en patience. Mariam Kouyati Bamako pour la VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Ici aux États-Unis, l'administration Biden se félicite du succès dans la lutte contre le coronavirus en vue du 4 juillet, la fête de l'indépendance. La réticence face à la vaccination reste toutefois élevée dans certaines parties du pays, alors qu'un nouveau variant fait des ravages. Le point avec Yesu Semaine Oni de la VOA, récit Jacques Aristide.
Le scénario est différent cette année. Quelques 47 millions d'Américains doivent prendre l'avion ou la route durant ce week-end du 4 juillet, une augmentation de 40% par rapport à l'an dernier. Le président Joe Biden.
Folks, les amis, nous nous dirigeons vers un été très différent de celui de l'année dernière. Un été radieux, un été de joie avec prière.
L'an dernier, en attendant un vaccin efficace produit à travers l'opération Warp Speed de l'administration Trump, la riposte était principalement laissée aux États, ce qui parfois donnait lieu à des directives contradictoires. Le nombre de morts atteignait jusqu'à environ 1100 par jour. Aujourd'hui, c'est une nouvelle situation. Docteur Tyson Bell, médecin aux soins intensifs à UVA Health.
Parmi les principaux changements, les vaccins bien sûr, mais nous avons également une idée de la façon de traiter les patients atteints de COVID-19. Nous comprenons les thérapies que nous devrions utiliser, celles qui font l'objet de moins de preuves contraires contre elles.
Trois vaccins autorisés par le gouvernement fédéral sont maintenant disponibles. Et avec une campagne de vaccination agressive menée par la Maison-Blanche, les États et les gouvernements locaux, les décès sont en baisse, en moyenne 256 par jour. Dr William Schaffner du Centre médical de l'Université Vanderbilt.
Les personnes qui sont hospitalisées aujourd'hui, qui tombent si malades avec le Covid et qu'elles doivent venir à l'hôpital, sont à plus de 90% celles qui ne sont pas vaccinées ou qui sont partiellement vaccinées. En d'autres termes, les vaccins font leur travail.
L'administration Biden se félicite que plus de 326 millions de doses ont été administrées et que 54% des Américains sont complètement vaccinés. Mais la réticence vis-à-vis de la vaccination demeure et l'objectif du président de faire vacciner 70% des adultes d'ici le 4 juillet n'a pas été atteint. Les personnes non vaccinées peuvent propager tout nouveau variant du coronavirus qui peut être plus dangereux, prévient Dr. Tyson Bell. Le variant Delta a entraîné de nouveaux confinements dans certaines parties du monde, aux prises avec des infections et des décès records. Plus d'un quart des cas aux États-Unis étant désormais attribués à ce variant. La distribution de vaccins demeure un problème majeur, selon l'Organisation mondiale de la santé. Dr. Margaret Harris, porte-parole de l'OMS.
La distribution de vaccins dans le monde est inégale. Certains pays ont vraiment pris de l'avance et ont vacciné plus de 50% de leur population. Mais la plupart des pays à revenus faibles ont vacciné un peu plus d'un pour cent de leur population. Nous avons dit haut et fort aux pays, si vous avez des doses, partagez-les maintenant.
Les experts médicaux sont d'avis que tout espoir de juguler la pandémie et d'un 4 juillet encore meilleur l'année prochaine dépend d'un effort mondial plus coordonné.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Jean-Roger Billon à ce micro. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayegouya, Burkina Faso, et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.